Julien Giry, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Institut du droit public et de la science politique et spécialiste des théories du complot. Bonjour à vous.
Bonjour.
La définition de complotisme, de théorie du complot, fait bien sûr l'objet de questionnements méthodologiques au sein de la recherche, mais on pourrait le définir comme le fait d'émettre une hypothèse non prouvée, mais qu'on considère comme indiscutable, et en affirmant qu'un groupe secret d'individus puissants manipule les événements. Et je crois que c'est cette acception-là de la définition que vous utilisez dans vos travaux. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire du Covid-19, plusieurs théories complotistes ont vu le jour, comme le fait que le virus soit lié au développement de la 5G ou bien que le virus ait été intentionnellement créé dans un laboratoire. Julien Giry, en quoi la période actuelle de crise sanitaire est-elle propice au développement de théories du complot ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire, effectivement. La période est propice, mais la période s'inscrit également dans un contexte, et c'est celui d'une défiance assez structurelle, assez... je crois bien établi, maintenant reconnu au moins par les sciences sociales, de défiance à l'égard des autorités. Les autorités, j'entends bien entendu les autorités politiques, les gouvernements au sein des régimes représentatifs, mais aussi des autorités médiatiques, des autorités économiques, et également, et c'est là où ça devient intéressant avec la cas de la Covid-19, c'est la remise en question des autorités scientifiques. De fait, les périodes de crise sont d'une manière générale révélatrices de symptômes un petit peu profonds de cette défiance structurelle qu'elle exacerbe et montre de manière encore plus manifeste. Avec le cas du coronavirus actuel, c'est tout à fait cela. On voit qu'aujourd'hui, face à cette situation un petit peu d'indétermination, de démonétisation, de délégitimation de la parole de ces autorités, eh bien, un besoin d'explication est néanmoins absolument prégnant et visible au sein de la population. Et la population va se chercher ses explications et se tourner vers des modes alternatifs, que sont, parmi d'autres, les théories du complot. En ce sens, ça permet de rassurer symboliquement face à l'incertitude, l'indétermination sociale, face à cette défiance structurelle, mais aussi les atermoiements de la parole publique dans ce moment où, justement, on le disait, le besoin d'information est d'autant plus important qu'il permet de comprendre le risque. L'indétermination, la défiance permettent finalement à ces théories du complot de gagner une certaine légitimité, une certaine visibilité dans l'espace public, en tant qu'elles viennent fournir d'autorité un récit explicatif sur le mode assez finalement simpliste. Ceci est arrivé parce que il y a un déterminisme assez manichéen, assez simpliste, qui est finalement rassurant sur le plan symbolique et qui explique, en partie au moins, l'adhésion d'une partie du public à ce type de théorie.
Donc pour toucher une personne, convaincre une personne, les théories du complot jouent sur le fait de rassurer, combler un vide, donc finalement jouent sur les sentiments et les émotions personnelles, sachant qu'il faut rappeler que toutes les personnes sont susceptibles d'adhérer à une théorie complotiste.
Absolument, vous avez tout à fait raison, je crois que c'est vraiment la première chose qui est impérieuse et vraiment indispensable à rappeler, c'est que chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau d'éducation, notre culture, notre capital culturel, notre profession, notre niveau de richesse, personne n'est immunisé une fois pour toutes par nature, culture ou éducation à des formes de complotisme. On peut être tous tentés parce qu'un événement fait sens pour nous, parce que nous sommes particulièrement touchés par un phénomène. Nous sommes donc tous plus ou moins tentés de croire à un plus ou moins large degré à au moins une théorie du complot. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, comme on l'a un peu dit, ça joue, les théories du complot jouent sur les affects collectifs, mais ils jouent aussi sur les affects individuels, sur nos représentations, sur nos visions du monde. Elles cherchent quelque part à venir les conforter, à nous rassurer sur notre vision du monde, à nous conforter dans l'idée que nous pensons bien quelque part, que ce que nous trouvons normal, injuste, moral, immoral, que le sentiment que nous avons d'une certaine dépossession politique, d'une certaine, injustice économique, sociale, etc., sont véritablement vrais. Là ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand ça devient finalement une vision qui devient manichéenne, selon laquelle un petit groupe d'individus puissants, néfastes, secrets, tirent toutes les ficelles dans l'ombre. Tout ce qui nous arrive de mal est dû à ce petit groupe nuisible et malfaisant. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement rassurant sur le plan symbolique de savoir que si finalement tout va mal, eh bien, c'est non pas la faute de rapports complexes, d'interactions sociales, d'incertitudes, de turpitudes, etc. En gros, les théories du complot, elles viennent quelque part décomplexifier le rapport au monde, les rapports sociaux eux-mêmes, qui sont évidemment souvent multifactoriels, pris dans des logiques contradictoires, dans des événements qui ne sont pas maîtrisés complètement par les êtres humains. Eh bien, les théories du complot, elles viennent vous rassurer en vous disant que finalement, tout ce qui va mal ne vient pas de vous. Vous, vous incarnez le bien, le juste, le moral, le bon, etc. Et de l'autre côté, par une sorte de manichéisme, de raisonnement binaire assez simpliste, tout ce qui va mal toutes les déstabilisations, tous les maux sociaux sont finalement le fruit et le produit de cette petite minorité néfaste, secrète et organisée. Vous êtes quelque part conforté dans votre vision du monde que vous, finalement, ça va bien. Ce qui est un peu problématique, c'est finalement le monde qui vous entoure. Tout cela sur le mode binaire, il y a eu ça parce que si, je le disais tout à l'heure, est conséquentialiste et surtout hégémonique. Elle régit l'ensemble des aspects de votre vie. Et ce que je disais tout à l'heure, ça permet de décomplexifier finalement et de rendre intelligible à tout le monde la réalité sociale du monde et des rapports sociaux.
Donc finalement, ça va venir chez la personne du fait qu'elle se pose des questions assez simples en fait sur qu'est-ce qu'est le monde en général, le monde qui l'entoure.
C'est surtout les réponses qui sont simples parce que se poser des questions, prendre en compte qu'il y a des formidables disparités économiques, de l'injustice sociale, là n'est pas le problème. Douter n'est pas le problème. Remettre en cause n'est pas le problème. La problématique qui se pose avec les théories du complot, c'est qu'elles se présentent comme une forme critique, une forme de pensée critique, alors qu'au bout du bout, on se rend compte que, en dernière analyse, elles sont une forme de pseudo-critique. Pseudo-critique pourquoi ? Parce que, comme je le disais, les théories du complot deviennent hégémoniques. On va douter de tout. Rien ne peut être tenu pour acquis. Les médias, les politiques, le savoir scientifique. Mais derrière ça, ce n'est pas que un scientifique, ce n'est pas que un média, ce n'est pas que un homme politique, un régime particulier. C'est ce régime, l'ensemble du régime, finalement. Ces scientifiques ont été formés dans des écoles. C'est donc ces écoles elles-mêmes qui sont elles-mêmes membres du complot. Si vous voulez vous tirer un fil où finalement tout est déconstruit. Rien ne peut être cru, rien ne peut être tenu pour acquis. Ce qui fait le minimum d'adhésion, un minimum de, j'allais dire de savoir, un minimum de reconnaissance dans la légitimité de certains processus, de certaines autorités scientifiques, tout cela finalement est déconstruit et tiré comme une pelote de laine où finalement on arrive à ne rien croire du tout, à douter de tout, sauf d'une seule chose qui, elle, n'est jamais questionnée, qui n'est jamais remise en question, c'est l'hypothèse même qu'il existe ce complot, que ce grand complot est à l'origine de tout. Le savoir scientifique est faux, la Terre est plate, en dernière analyse. Nos gouvernements sont tous corrompus, d'ailleurs nos gouvernements ne sont que des hommes de paille derrière tel lobby, etc. Les journalistes appartiennent tous à des officines secrètes, aux ordres d'un pouvoir politique quelconque. Bref, tout le monde est agent du complot. On doute de tout, sauf d'une seule chose, qui est l'existence même de ce complot. Et ça débouche sur quoi ? Eh bien, sur un paradoxe qui fait qu'on débouche sur cette forme de pseudo-critique accusatoire. Les agents du complot contrôlent tout. Les agents du complot régissent notre vie. Nous sommes les victimes. C'est la deuxième branche de cette rationalisation paradoxale. Donc, pseudo-critique accusatoire et victimaire, dans le même temps, on nous empêche de dire la vérité, on nous empêche de révéler au plus grand nombre l'existence de ce complot. Et c'est là où finalement les théories du complot ne sont pas une forme de critique. La critique est légitime, le doute est légitime, la remise en question est légitime, mais il faut qu'elle soit quelque part raisonnée, qu'elle ne devienne pas une forme de système où finalement rien n'est tenu pour acquis, sauf, je le disais, cette hypothèse qu'il existe du complot. Et c'est là où on est véritablement dans le piège, j'allais dire, du conspirationnisme qui devient un système de pensée.
Les théories complotistes, quand apparaît une nouvelle forme de virus ou de maladie, c'est pas nouveau. Pendant la pandémie de grippe espagnole au début du XXe siècle, par exemple, ça existait déjà, mais aussi plus récemment avec la grippe H1N1 en 2009. Est-ce qu'aujourd'hui, toutefois, il y a un changement dans ce jeu des théories complotistes avec l'importance des réseaux sociaux ?
Oui, c'est vrai que vous dites, c'est très juste. Il est tout à fait important de rappeler que les explications en termes de forces occultes pour expliquer les grandes pandémies, c'est très ancien. La peste, déjà au Moyen-Âge, était le résultat d'une action diabolique ou d'une action d'un châtiment divin. La grippe espagnole, effectivement, elle aussi liée, par exemple, selon sa théorie, à la généralisation des émissions radiophoniques. Ça fait écho tout à fait à la 5G actuelle. Je parle même pas de la pandémie de sida qui était véritablement lieu à tout type de théorie du complot. Alors, est-ce que ça change véritablement quelque chose aujourd'hui avec le développement de l'Internet 2.0 ? Ce qui est certain, c'est que ce type de théorie, elles ont aujourd'hui un accès quasiment immédiat, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire quasiment instantané et sans médiation, au public. Il est extrêmement facile pour un internaute qui dispose d'une connexion Internet de réaliser sa propre théorie, de faire sa propre vidéo, de la lancer comme ça un petit peu dans l'espace public et de trouver des personnes qui finalement vont se sentir en accord avec cette théorie parce qu'elle vient, je le disais comme je le disais tout à l'heure, conforter leur propre perception, leur propre prénotion, leur propre vision du monde, etc. C'est ça, je crois, qui est la grande différence aujourd'hui avec Internet, en particulier Internet 2.0 et les théories du complot préexistantes. C'est la visibilité, l'accessibilité de ce type de théorie à une grande partie du public. Elles étaient jusqu'alors au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, relativement, pour le cas français en tout cas, relayées dans des espèces de sphères un petit peu, disons, microscopiques, un petit peu nébuleuses, crapoteuses de l'extrême droite. Essentiellement, aujourd'hui, grâce à Internet, et notamment au tournant vidéo de l'Internet, elle gagne de nouveau une certaine visibilité et donc une certaine légitimité dans l'espace public. Alors, à la fois parce que elles sont immédiatement accessibles, mais aussi parce qu'elles se sont adaptées, ces théories, au contexte actuel. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement esthétisées. Elles font référence à énormément de supports de la culture populaire jeune, etc. Elles sont quelque part attrayantes, au-delà même de leur message, c'est-à-dire sur le plan de leur conception, sur le plan technique, pour une partie du public. Et ça, c'est aussi un élément qui fait leur succès.
Par exemple, l'appui sur la culture populaire, ça va être les séries qui auraient prédit le coronavirus. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fait d'aller chercher une confirmation de ses doutes à travers cette culture populaire.
Oui, c'est ça. Alors on va chercher dans les supports de culture populaire des moyens de légitimer la théorie. Alors soit, comme vous le disiez, on va chercher une série où on trouve que finalement, il y aurait une sorte de prescience, d'annonce de l'épidémie, de l'annonce du complot, etc. Donc ça, les Simpsons, par exemple, sont souvent cités. Mais de la même manière, on va aussi, dans certaines vidéos complotistes, aller chercher dans des supports de culture populaire des images. On va prendre des images, on va refaire des sons pour donner une certaine sorte d'esthétisme et de légitimité au message. Je pense, par exemple, à la série Walking Dead ou au Seigneur des Anneaux, qui sont souvent utilisés par des leaders conspirationnistes parce qu'ils mettent en jeu des formes de bataille épique entre le bien, le mal, sorte de choses assez simplistes, manichéennes et réductrices. Et donc, finalement, on va chercher cette image à décontextualiser pour lui donner un nouveau sens. Et en utilisant ça, eh bien, finalement, on parle directement à un public qui est sensible, qui connaît ces séries. Donc, ça permet aussi de l'attirer. Donc, ça, c'est vraiment dans les deux sens. On joue, encore une fois, ici, sur les émotions, sur les ressentis, sur les affects, etc., etc. Et ça, c'est très, très important dans le fait qu'un certain nombre de gens vont adhérer, alors parfois moyennement, parfois totalement, à un certain nombre de discours parce qu'ils font sens et ils rendent le monde social à la fois intelligible, mais j'allais dire aussi quelque part esthétique, et ça c'est très important.
Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de ressources pour se renseigner, l'information abonde largement et surtout autour d'un phénomène aussi marquant que le Covid-19. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, est-ce que cet accès hyper facilité à une myriade d'informations n'augmente pas finalement les possibilités de voir apparaître des théories du complot ?
Alors effectivement, il y a deux choses. La première chose, c'est que, comme vous le disiez, dans les années 40, quand on a commencé à travailler sur les rumeurs, il y avait un auteur qui s'appelait Knapp, et Knapp, il avait fait comme hypothèse l'idée de dire que, pour résumer, plus le public aurait accès à une information la plus large possible et le plus rapidement possible, eh bien, il y aurait moins de rumeurs en circulation dans l'espace public, puisque finalement, le public aura accès à une information fiable, vérifiée, sourcée. Il n'aurait donc plus besoin de mettre en œuvre ces mécanismes de contournement, finalement, de la parole officielle. Il n'aurait plus besoin, parfois, de remplir les vides. On disait tout à l'heure que la théorie du complot NS du besoin d'explication. Il y a les rumeurs, c'est pareil. Empiriquement, ce qu'on a finalement constaté, c'est qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est que plus il y a d'informations qui circulent dans l'espace public, plus il y a la potentialité, démultipliée bien sûr avec Internet et les réseaux sociaux, pour créer une vérité alternative sur ces événements extraordinaires notamment, pandémie, catastrophe, attentats, etc. Donc ça, c'est la première chose. Plus il y a d'informations dans l'espace public, plus il y a d'informations publicisées, plus il y a la potentialité pour des acteurs sociaux soit de créer à partir de rien des fausses informations, soit de les réintégrer dans leur récit conspirationniste préétabli. Hein. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on voit que Covid-19, tous les trucs essaient de le ramener à une sorte de complot juif, Buzyn, Lévy, Salomon, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que finalement, on n'a pas tous accès à la même information. Il y a sur les réseaux sociaux numériques des phénomènes d'algorithmes qu'on connaît bien, qui font des offices de bulles filtrantes. C'est-à-dire que plus vous êtes intéressé par un sujet, plus vous avez de chances de rencontrer de l'information qui va dans le sens, pas d'abord sur le sujet qui vous intéresse, et ensuite dans le sens de ce que vous avez déjà cherché. Donc il y a une sorte de cloisonnement, d'enfermement dans des bulles informationnelles. Internet, contrairement au mythe d'une espèce de communication ultra ouverte, où finalement chacun aurait accès à toute l'information, juxtapose finalement un certain nombre de communautés qui ont accès à un type d'information. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est pas vrai que pour les complotistes, hein, ce phénomène de bulle filtrante. Et de ce point de vue-là, il y a un auto-renforcement des convictions. Je disais tout à l'heure que les théories du complot, elles cherchent à satisfaire finalement, à venir conforter des croyances. Eh bien, avec les phénomènes de bulle filtrante, ces croyances sont davantage encore renforcées. Et surtout, elles permettent de rencontrer des gens, virtuellement évidemment, qui pensent comme vous. Vous n'avez pas l'impression d'être seul, vous n'avez pas l'impression d'être isolé, d'être une sorte de marginal, un peu foufou, qui pense des choses improbables que personne ne pense. Quand vous perdez, j'allais dire, des contacts à cause de vos croyances dans le monde physique, c'est le cas par exemple des gens qui croient à la Terre plate, des gens qui vont croire par exemple en l'existence d'un gouvernement mondial composé de reptiliens, des lézards géants. Eh bien, vous allez trouver sur Internet des gens qui pensent comme vous. Et avec l'effet de loupe que crée Internet, eh bien, vous avez l'impression que finalement vous êtes extrêmement nombreux, que vous êtes des milliers, que vous êtes des millions, et que peut-être que si des millions de gens pensent comme vous, vous avez raison. Rajoutez à ça le fait d'être bombardé d'informations toute la journée qui vont dans le sens de vos croyances, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation d'enfermement non plus simplement communicationnel, mais aussi d'enfermement social, et qui est extrêmement coûteux. Et c'est ça le succès des théories du complot, c'est qu'elles permettent de donner l'impression que votre vision du monde est juste et corroborée, et en tout cas partagée par un nombre innombrable, justement, d'individus. Ça, c'est très puissant.
Donc en fait, il y a une sorte de phénomène multiple qui fait que les réseaux sociaux sont un peu un terrain fertile en fait aux thèses complotistes, puisque chacun peut exprimer ses doutes et on se tous relaie vite dans cette bulle filtrante qui se juxtapose en fait à la prolifération de l'information, qu'elle soit vérifiée ou non, qui est en plus aussi remise en question s'il s'agit peut-être de médias traditionnels ou pire s'il s'agit des instances étatiques.
Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes vraiment un complotiste convaincu, j'allais dire pur et dur, quoi qu'il vienne des médias traditionnels, quoi qu'il vienne des autorités, pour vous, de toute façon, c'est faux. C'est mensonger au mieux. C'est de la stupidité de la part des instances politiques, des instances médiatiques, des instances scientifiques. Au pire, ce sont des agents directs du complot. Soit ce sont des idiots utiles, soit ce sont des agents du complot. Quoi qu'il arrive, de toute manière, comme je le disais tout à l'heure, vous allez douter de tout. Tout ce qui est dit de la parole officielle sera irrémédiablement rangé dans le faux, dans le mensonge, dans la manipulation, dans la propagande, etc. Et de l'autre côté, tout ce qui viendra des médias et informations sera immédiatement pris comme étant vrai. Il y a une sorte de double standard, si vous voulez, dans la vérification de la preuve, dans l'administration de la preuve. Ce qui vient des médias est toujours faux. Il faut toujours en douter, il faut toujours le critiquer, le remettre en cause. En revanche, ce qui vient de la bulle filtrante, ce qui vient des sphères, finalement, des nouvelles sphères de légitimité qu'on peut avoir, des nouveaux individus qu'on va suivre, des nouveaux leaders qu'on va suivre, etc. Eh bien, tout cela sera tenu comme vrai parce que c'est une parole d'autorité au bout du monde.
Est-ce qu'il y a une prise en compte par les instances étatiques de cette méfiance? Est-ce qu'il y a un changement d'attitude de la part des instances étatiques face au développement de ces théories complotistes à l'heure du coronavirus?
Alors, je crois qu'il faut quand même reconnaître que l'État a pris conscience finalement que cela existe et qu'il faut faire avec. Le problème, je dirais, c'est que tout ce qui est mis en place, que ce soit les sites gouvernementaux pour lutter contre les théories du complot, de la même manière que les sites de fact-checking qui sont mis en place par les médias, ne parlent qu'aux convaincus. Les complotistes qui sont convaincus que de toute façon les médias mentent, ils ne vont pas être davantage convaincus, j'allais dire même encore moins, que le fact-checking fait par tel média dominant aille dans leur sens. Donc non, de toute façon, j'allais dire qu'on parle qu'aux convaincus. Ça, c'est la première chose. C'est très difficile de faire revenir ces individus-là dans la sphère, j'allais dire, non complotiste, parce qu'ils sont vraiment au bout d'un chemin de radicalisation qui a parfois été très coûteux sur le plan social, en raison de leurs croyances. Donc leur faire faire machine arrière est extrêmement difficile. Donc oui, les gouvernements essayent de mettre en place des choses, mais ces choses-là, elles sont davantage destinées à ceux qui sont au début du chemin, au début de la radicalisation, et qu'à ceux qui sont déjà arrivés au bout, enfin, ceux qui émettent encore un doute légitime, ceux qui ne sont pas encore, j'allais dire, tombés dans le piège de cette forme, cette pseudo-forme de critique dont je parlais tout à l'heure. Là-dessus, c'est clair que les gouvernements ont mis des choses en place et ils ont pris en compte que ça existait. Moi, je dirais, le problème qui est fait, notamment par les pouvoirs publics, c'est qu'ils sont dans une logique assez pathologisante et assez criminalisante de la pensée conspirationniste. Ils ont l'impression qu'il y a énormément d'imbéciles, des idiots, des gens qui sont un peu cons, pour le dire clairement, qui croient à ce genre de choses. Ils se rendent pas compte, finalement, que les théories du complot sont aussi un produit ou un sous-produit de cette défiance structurelle vis-à-vis des mécanismes de représentation qui, eux-mêmes, effectivement, ne sont pas exempts d'une véritable critique. On le voit aujourd'hui. Je veux dire, les sciences sociales l'ont montré depuis longtemps. Il y a une formidable coupure qui existe entre les élites politiques et les représentés. Il y a de fortes inégalités sociales qui existent. Le chômage est structurel. Les inégalités de richesse sont structurelles. La pauvreté, l'exclusion sont des phénomènes sociaux réels. Je crois que là, c'est très difficile pour le monde politique de penser sa propre responsabilité dans la production de ces théories et surtout de repenser une remise en question fondamentale de ce système qui voudrait, quelque part, remettre en cause les logiques de domination et les logiques de verticalité qui sont établies. Donc ça, c'est extrêmement difficile. Est-ce que les acteurs politiques dominants en sont capables? Ça, c'est une vraie question. Mais je crois qu'il faut quand même les considérer, les théories du complot, comme une sorte de politisation malheureuse qui nous donne une, qui nous renseigne quelque part sur l'état de délitement et en termes de confiance, hein, bien sûr, et des problématiques réelles qui traversent les régimes représentatifs. C'est pas simplement un truc farfelu, un truc d'idiot, d'imbécile. Non, non. Il y a quand même la constatation de véritables enjeux, de véritables problématiques qui doivent être tout à fait, je crois, prises en compte.
Pour terminer, est-ce qu'il y a des théories du complot qui sont nées autour du coronavirus, également dans d'autres pays qu'en France?
Oh, mais bien sûr, je crois que les théories du complot, elles sont quelque part mondialisées. Souvent, les tenants du conspirationnisme sont les leaders nationalistes qui sont anti-mondialisation, anti-globalisation, mais eux-mêmes sont pris dans un jeu de globalisation de leurs théories. Les théories qui circulent en France sur, par exemple, la 5G, elles ont également cours aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, avec des conséquences parfois plus importantes. On a vu en Angleterre des antennes brûlées, on a vu en Australie des installateurs molestés, etc. Donc oui, ces théories, elles existent. Regardez la figure de Bill Gates, les théories du complot, les figures de George Soros, ce ne sont pas des figures franco-françaises, ce sont des figures mondialisées. Et j'allais dire d'autant plus, évidemment, qu'elles font sens pour un plus grand nombre d'acteurs sociaux. Les théories du complot, elles vivent aujourd'hui comme l'information à l'échelle globale.